Bonjour à tous, merci Michel pour la présentation. Donc comme vous le savez, je vais vous parler d'aspects plus négatifs de l'utilisation d'Internet. Donc ensemble, nous allons discuter des connaissances que l'on a actuellement sur ce sujet-là. Donc avant de parler d'addiction, je vais revenir sur Internet qui est responsable de plusieurs conséquences néfastes, donc des conséquences qui peuvent mener à la mort. Comme par exemple le cyberharcèlement qui conduit à des tentatives de suicide. Et c'est ainsi, c'est dans cette catégorie que l'on retrouve l'addiction à Internet, donc qui est étudiée depuis 1995, principalement aux États-Unis et en Asie. Et les populations les plus étudiées sont les étudiants, les collégiens et lycéens, puisque ce sont les populations les plus à risque. Mais on le verra ensemble. Et point très important, puisqu'on va revenir sur beaucoup de débats qui entourent l'addiction à Internet, c'est que l'addiction à Internet n'est pas un trouble reconnu. Il ne fait partie d'aucune classification des troubles mentaux. Donc vous voici, voici les deux manuels les plus utilisés, le DSM et la CIM. Donc il est important de revenir sur ces classifications-là, quelle est la place des addictions et de l'addiction à Internet. Donc, jusqu'en 2013, dans la classification donc, des troubles mentaux, les seules addictions répertoriées étaient les dépendances à une substance. Peu importe la substance, mais c'est des dépendances liées à un produit. Et le jeu pathologique, lui, que l'on peut considérer, nous, comme une addiction aussi, était classifié dans les troubles du contrôle de l'impulsion. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve, par exemple, la kleptomanie ou la pyromanie. Donc, c'est deux troubles qui n'ont rien à voir avec le jeu pathologique. Et depuis 2013, ces deux troubles, donc toutes les dépendances à une substance et le jeu pathologique, font partie d'une nouvelle catégorie, les troubles liés à une substance et troubles addictifs. Un autre changement important, donc depuis 2013, on a vu l'apparition d'un nouveau trouble, l'Internet Gaming Disorder. Donc, malgré une définition très claire et très précise donc, que je vous propose, il y a de nombreuses confusions par rapport à ce trouble, puisque on l'évalue en prenant en compte le temps de jeu en ligne et le temps de jeu hors ligne. Donc le terme Internet Gaming Disorder est un peu mal placé. Et surtout, c'est à la fois défini comme une addiction à Internet ou une addiction au jeu. Donc effectivement, il manque de clarté ici. Donc, l'addiction à Internet, quelle est sa place? De nombreux auteurs ne sont pas convaincus qu'il s'agisse d'un trouble à part entière, ce qu'on appelle un trouble primaire. Pour les auteurs qui suivent cette théorie-là, ils comparent l'addiction à Internet à une dépendance à une substance, au jeu pathologique ou plus récemment à l'Internet gaming disorder. Mais pour la majorité des auteurs, il s'agit d'un trouble secondaire, puisque plusieurs études ont montré qu'on observait la présence d'un trouble psychiatrique dans 50 à 100% des cas chez les addicts à Internet. Donc, ce qui sous-entend qu'il y a un autre trouble en plus de l'addiction. Les autres troubles que l'on retrouve le plus fréquemment, ce sont la dépression, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité et aussi les dépendances, que ce soit des dépendances à une substance ou des dépendances qu'on appelle comportementales, c'est-à-dire toute dépendance avec n'importe quel objet ou situation. On y reviendra. Et pour ces auteurs, l'addiction à Internet n'est pas réelle, puisque Internet n'est pas addictif. Internet ne serait qu'un médiateur entre un individu et un comportement. Donc par exemple, si dans cette salle, quelqu'un est addict au poker en ligne, au jeu en ligne, si on considère que l'addiction à Internet est un trouble secondaire, donc si vous n'utilisez pas Internet, vous irez dans une salle de jeu privée ou dans un casino. Vous exprimerez vos comportements ailleurs. Donc un autre débat sur l'addiction à Internet, et j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, c'est le terme utilisé. Donc le premier terme, qui a été utilisé, c'est l'addiction à Internet. Internet addiction en anglais, bien sûr. Et il a été donc suivi par de nombreux autres troubles qui reprennent le concept d'addiction. Et ces termes sont donc très controversés. L'addiction, la dépendance à une substance, la dépendance tout simplement, normalement, c'est un ensemble de symptômes physiologiques et psychologiques. Et pour l'addiction à Internet, on n'a aucune preuve d'une présence de symptômes physiologiques. Par exemple, quand on se déconnecte d'Internet, on se fait en manque. Donc, d'autres termes moins controversés ont été proposés. Parmi ceux-ci, le terme d'utilisation problématique d'Internet fait fait plus ou moins l'unanimité. Donc, tous ces termes pour définir à peu près un même concept. Mais depuis quelques années, on met l'accent sur la définition de deux catégories bien distinctes, l'utilisation problématique généralisée d'Internet et les utilisations problématiques spécifiques d'Internet. Donc l'utilisation problématique généralisée d'Internet, en fait, on l'a très peu observé dans des cas cliniques. Par contre, les utilisations problématiques spécifiques, vous vous en doutez, ça regroupe l'addiction au jeu, l'addiction au poker, l'addiction au travail, l'addiction au sexe, l'addiction aux réseaux sociaux. Il y a à peu près tout ce qu'on pourrait y caser. On pourra tout y mettre, en tout cas. Donc, on fait surtout cette distinction parce qu'on a observé des différences. Par exemple, on sait que les addicts au jeu ou à la pornographie sont principalement des hommes, tandis que les personnes addictes aux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter sont plutôt des femmes. Donc, passons maintenant à la définition donc, de l'addiction à Internet. En fait, vous allez être déçus parce qu'il n'y a pas de définition consensuelle. Il y a plus de 70 définitions différentes qui ont été proposées par des chercheurs, par des auteurs et des cliniciens, et pourtant aucune ne fait consensus. Alors je vous en propose une qui est assez ancienne, mais pourtant qui est très reprise et qui est assez large pour vraiment inclure l'addiction à Internet et les addictions à Internet. Donc dans les définitions, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est l'utilisation incontrôlable d'Internet, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir un contrôle sur le temps qu'on passe en ligne, et ensuite, surtout, les conséquences négatives. Comme pour tous les troubles mentaux, ça devient un trouble parce qu'on en souffre, parce qu'il y a une altération du fonctionnement. Donc, il y a d'autres éléments qui ont été ajoutés aux définitions, comme par exemple le temps passé en ligne. Pour certains auteurs, passer un certain nombre de temps sur Internet serait révélateur d'une addiction. Sauf que là aussi, personne n'est d'accord. Certains pensent que 8 heures par semaine serait un signe d'addiction à Internet. 8 heures par semaine, ça ne fait même pas 2 heures par jour. Et d'autres donnent des chiffres, pas empiriques non plus, on serait addict à Internet si on passerait plus de 40 heures par semaine. Et là aussi, 40 heures, pour certains, ça peut être tout. Donc ensuite, l'autre débat autour de l'addiction à Internet sont les critères diagnostiques. Donc comme ce n'est pas un trouble reconnu, il n'y a ni définition, ni terminologie et ni critères diagnostiques. Donc, pour l'instant, les critères qu'on utilise sont ceux de la dépendance aux substances et ceux du jeu pathologique. Et bien sûr, au fur et à mesure, on va commencer à utiliser les critères diagnostiques de l'Internet Gaming Disorder, puisqu'on n'a que ça à portée de main. Donc, les critères diagnostiques qui sont le plus récurrents sont l'altération du fonctionnement ou une souffrance, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi les tentatives d'arrêt ou de contrôle, donc des tentatives infructueuses surtout, et enfin les symptômes de tolérance et de sevrage. Donc la tolérance, c'est le fait d'augmenter le temps passé en ligne, parce qu'on n'en ressent pas les mêmes effets qu'au départ, et le sevrage, c'est les symptômes de manque, dans une alcoolodépendance, ce serait des symptômes physiologiques par exemple. Là, pour Internet, on fait plutôt référence à des symptômes psychologiques, où on est par exemple plus nerveux, plus anxieux, plus déprimé quand on n'est pas sur Internet. Donc, continuons. Maintenant, l'évaluation de l'addiction à Internet. Donc, je vous laisse deviner, là aussi, il y a beaucoup de débats. Alors, il y a quelques entretiens cliniques qui ont été proposés, et de toute façon, un professionnel peut réaliser un entretien et essayer de savoir s'il y a une addiction ou pas. Mais il y a surtout une cinquantaine d'échelles de questionnaires qui ont été créés pour savoir si oui ou non les individus étaient addicts à Internet. Donc, ici, il y a les consignes les plus souvent reprises. Donc, ce qui revient le plus depuis quelques années, c'est qu'il ne faut pas inclure le temps que vous passez sur Internet pour le travail. Donc, j'imagine peut-être que certains d'entre vous ici le font, et ces heures-là ne peuvent pas être comptabilisées. Bonne nouvelle pour nous. Alors, pour savoir, si certains se le demandent, pour savoir si vous êtes addict à Internet, si vous répondez oui à au moins deux de ces questions-là, je pense que vous pouvez venir me voir après la présentation. Je vous laisse les lire. Vous pouvez noter vos scores sur une feuille. Donc, je continue. Alors, maintenant, je vais vous parler donc de prévention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune étude épidémiologique sur l'addiction à Internet. Ça va être difficile de vous donner des taux de prévalence études-là. Donc, ce que font tous les chercheurs, et ce que j'ai fait ici aussi, c'est de regrouper donc, plusieurs données pour vous proposer des fourchettes à peu près représentatives de la prévalence. Donc, aux États-Unis, par exemple, on sait que l'addiction Internet touche entre 1 à 10% des individus, que cela est pour les adolescents, les lycéens, les collégiens, les adultes, tout le monde, les jeunes adultes, toutes les catégories sont dans ce pourcentage-là. Et d'ailleurs, en Europe, le pourcentage est à peu près similaire, entre 1 et 18%. Ensuite, en Asie, qui est le continent le plus touché par l'addiction à Internet, donc les taux sont forcément supérieurs à ceux qu'on retrouve en Europe ou aux États-Unis. Et enfin, en France, donc comme vous le voyez ici, je vous ai proposé les résultats d'études, en espérant que vous arriviez tout de même à faire une fourchette assez fine, puisque là, entre 0,4 et 25%, je ne vous ai pas vous présenter cette fourchette-là. Donc, il y a des biais méthodologiques dans toutes les recherches. On n'utilise pas tous les mêmes questionnaires, pas tous les mêmes individus. Il y en a qui recrutent sur Internet, il y en a qui recrutent dans des hôpitaux, dans des lycées. Donc, effectivement, il est difficile là, d'avoir une estimation claire, en tout cas pour l'instant et pour la France. Donc, passons maintenant aux facteurs qui sont responsables, qui favorisent le développement d'une addiction à Internet. Donc, vous avez déjà l'âge. On sait que les plus jeunes sont plus sensibles, sont plus à risque de développer une addiction à Internet. Et le genre, donc jusqu'à récemment, les hommes étaient les plus touchés par l'addiction à Internet. Et on se rend compte au fil des années que les taux changent et que les femmes sont de plus en plus addictes, si ce n'est parfois plus que les hommes. Ensuite, il y a des facteurs comme le niveau de vie ou la précarité. Par exemple, en Grèce, depuis la crise, les taux d'addiction à Internet ont augmenté. Bon, il y a sûrement d'autres facteurs. Et enfin, des variables familiales. Donc, par exemple, le fait d'être enfant unique, de vivre dans une famille monoparentale, quand on est divorcé par exemple, et l'absence de cohésion et communication dans la famille peut favoriser ce développement, le développement de cette addiction. Et ensuite, donc comme je suis psychologue et docteur en psychopathologie, je ne pouvais pas éviter de vous parler de tous les facteurs psychologiques qui peuvent favoriser cette addiction-là. Donc les troubles principaux qui favorisent le développement de l'addiction Internet, apparemment ce serait les troubles de l'humeur. Donc, le fait d'être dépressif favoriserait la consommation d'Internet, qui elle-même favoriserait le développement de l'addiction. On sait par exemple que dans 2 cas sur 3, chez les addicts à Internet, la dépression était déjà présente. Et seulement dans 1 cas sur 3, la dépression n'apparaît qu'après l'addiction à Internet. Et par exemple, dans le cas des addictions comportementales, elles peuvent être une cause de développement d'addiction à Internet. Quelqu'un qui est addict au jeu, au poker, au casino, des casinos réels, aura tendance à aller sur Internet et en allant sur Internet, risque de développer à ce moment-là une addiction à ou sur Internet. Donc passons maintenant aux conséquences. Alors elles sont plus que nombreuses. Donc ici, je vous présente seulement celles qui sont les plus récurrentes. Donc, déjà, les conséquences physiques et physiologiques. Donc les principales conséquences, c'est l'insomnie et les maux de tête. Et un peu plus grave peut-être pour les adolescents ou les jeunes, sont les modifications cérébrales, donc des modifications neuronales, qui peuvent avoir des conséquences plus tard sur le développement des fonctions cognitives. Ensuite, des conséquences professionnelles et sociales. Donc on a souvent affaire à des individus en retrait, et ils se sentent souvent plus seuls, mais cherchent aussi cet isolement-là. C'est assez difficile à prendre en charge. On observe, à cause du temps passé en ligne, une diminution des performances, de la réussite scolaire en général chez les enfants, plus de licenciements, comme je l'ai dit, et on observe parfois aussi des problèmes financiers importants, des addictions spécifiques à Internet, addictions au jeu ou à la pornographie, aux achats en ligne aussi d'ailleurs, peut avoir des conséquences dans ce niveau. Et ensuite, encore une fois, les conséquences psychologiques. Donc on sait que l'addiction à Internet influe sur les symptômes psychologiques, symptômes et troubles. Donc la dépression semble être une cause, mais c'est aussi une conséquence. Les individus qui fréquentent, consomment Internet de façon excessive sont souvent des individus dépressifs. Donc passons maintenant à la prévention et la prise en charge. On sait, vous le savez, qu'il y a peu de prévention, si ce n'est pas du tout de prévention autour de l'addiction à Internet, hormis en Asie peut-être. Et en plus qu'en France, il y a très peu de centres spécialisés ou de professionnels formés pour traiter cette addiction-là. Donc ici, il y a l'hôpital Marmottan à Paris, aussi, il y a aussi une clinique à Bordeaux, une à Nantes, et je crois que j'ai fait le tour. Donc pour la prise en charge, c'est assez compliqué parce que les addicts Internet sont peu demandeurs des soins. En général, c'est la famille, les parents ou les proches qui font appel à un psychologue ou un professionnel. L'hospitalisation est rarement nécessaire aussi dans les cas d'addiction Internet. Donc c'est facile de se soustraire aux soins. Dans tous les cas, ce n'est pas comme une alcoolodépendance où là, se soustraire aux soins, ça devient très compliqué au bout d'un moment. Donc, la prise en charge psychologique, en général, elle repose sur un entretien et ensuite, plusieurs entretiens, hein, et la proposition de traitement. Donc, les traitements pour l'addiction Internet sont assez similaires à ceux proposés pour les toxicomanies. L'objectif, c'est de réduire ou de contrôler. Souvent les deux. Excusez-moi. Donc, dans le cadre de l'addiction Internet, il faut aussi prendre en compte le possible trouble primaire qui pourrait être présent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'addiction Internet n'est pas forcément le trouble à prendre en charge. Si le problème c'est une addiction à la pornographie, on travaillera peut-être plus sur une problématique de sexualité que d'outils informatiques. Donc le premier traitement que je vous propose, c'est le traitement pharmacologique. Donc pour les addicts Internet, on utilise des antidépresseurs, puisqu'ils sont souvent dépressifs, comme je l'ai dit, parfois couplés avec des antipsychotiques, et on observe donc une amélioration des symptômes dépressifs et d'addiction à Internet, particulièrement chez ceux qui ont une addiction aux jeux vidéo en ligne. Dans 30 à 60% des cas, il y a une réponse favorable de ce traitement. Ensuite, il y a les thérapies de groupe. Donc elles sont basées sur le même concept que les alcooliques anonymes. L'objectif, c'est d'avoir du soutien psychologique, psychosocial surtout, et de reprendre contact, de remettre en route, c'est la communication réelle, non pas imaginaire. Ensuite, il y a les thérapies familiales, donc, qui sont fortement recommandées quand ce sont des enfants, des adolescents qui sont face à cette problématique-là. L'objectif ici, donc, c'est surtout de travailler sur la cohésion de la famille, partiellement sur l'addiction Internet. On va aussi forcément favoriser la réduction du temps passé en ligne et le travail et l'habileté sociale, qui est un peu plus haut, avec les parents et avec les proches. Et enfin, il y a les thérapies individuelles et particulièrement les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, pour ces thérapies, l'objectif est de mettre en place justement des objectifs quotidien et hebdomadaire pour pousser à la réduction du temps passé en ligne. Dans ces thérapies-là, on insiste, ces thérapies cognitivo-comportementales, donc on insiste à la fois sur ce que ressent l'individu et à la fois sur ses actions. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les deux soient congruents l'un avec l'autre. Donc, nous arrivons à la fin de la présentation. Pour conclure, l'addiction à Internet, bien que non reconnue, est un trouble réel qui touche de plus en plus de personnes et qui bientôt sera un trouble intergénérationnel. Et forcément, c'est ces conséquences néfastes, toutes les conséquences de l'addiction à Internet qui nous poussent, chercheurs et cliniciens, à continuer à travailler sur ce sujet-là. Je vous remercie.